Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile Doménibus.
7h46, c'est le petit déjeuner politique. Marc Fesneau est avec nous, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne.
Oui, bonjour Marc Fesneau.
Bonjour.
On entendait à l'instant Philippe, un auditeur comme beaucoup d'autres, hein, désespéré par les mesures en disant oui, nous les petits commerces, il n'y a pas que ça, mais toute l'activité économique qui souffre. Alors donc, le confinement, rien ne bouge d'ici 15 jours.
Absolument.
Parce que les effets pour freiner l'épidémie sont trop lents, c'est ça? Pourquoi?
Ils ne sont pas lents, en tout cas on voit le premier frémissement des mesures qui ont été prises. D'abord de couvre-feu et ensuite de confinement. Mais on voit bien que la tension faite sur le système hospitalier, et au fond le taux de reproduction du virus et le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont contaminées, diminue mais reste encore très élevé dans notre pays, et que pour protéger nos populations, pour protéger les citoyens, on a besoin de poursuivre ces mesures. Alors je comprends tout à fait la désespérance des commerçants, des restaurateurs, ouais. qui voient pas pour certains des perspectives, pour d'autres sans doute une perspective si nous étions sur cette tendance-là à partir du 1er décembre. Donc je comprends tout à fait leur logique. La vérité oblige à dire qu'aussi, manifestement, ces mesures-là ont un effet, puisqu'on voit une courbe qui semble commencer à s'infléchir. Donc ouais. Il faut poursuivre l'effort. Je sais bien que pour tous les Français, c'est un effort. Pour nous
Est-ce
tous,
qu'il
c'est
y a un espoir des réouvertures quand même au 1er décembre? Alors pour les petits commerces non essentiels qui, justement, enfin, il y en a un qui était avec nous.
Le Premier ministre a été très clair hier. Il a dit que si nous étions sur cette tendance-là, et que donc une tendance stabilisatrice, puis à la baisse, comme celle qu'on semble observer depuis quelques jours, on pourrait réenvisager l'ouverture des commerces non prioritaires, si je peux dire. Pas non essentiels, parce que j'aime pas le terme non essentiel.
Bah oui.
Je pense que c'est...
Non mais c'est vrai qu'on avait ce commerçant de l'hypercentre toulousain tout à l'heure à 7h10 qui disait bah moi il vend du cuir etc des sacs donc c'est novembre et décembre où je fais mon
mais
chiffre
c'est pour
et
ça
sinon
que...
et
c'est pour sinon, ça qu'il faut pas relâcher l'effort parce que le mois de décembre est un... alors le mois de novembre peut être un mois important mais le mois de décembre est un mois déterminant dans les périodes de fêtes. Et il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la situation d'avoir desserré ce qui ressemble à un étau, disons les choses comme elles sont, trop tôt, pour qu'après, au mois de décembre, on se rende compte que de nouveau, il faille revenir à des mesures plus difficiles. Donc, j'entends tout à fait la détresse et la désespérance des uns et des autres. Le gouvernement essaye, je crois, à travers d'un certain nombre de dispositifs, de compenser les pertes, même si, de toute façon, c'est difficile. Les commerçants sont là pour être commerçants et pas forcément pour voir leur vitrine fermée.
Non, puis même, ce n'est pas les mêmes chiffres d'affaires, hein, parce que là, il aura l'aide de 10 000, mais il va toucher...
Ça peut être un peu plus.
Bah, bien sûr, oui, oui.
Et donc, il faut qu'on regarde avec eux d'abord la façon dont, si nous étions sur cette tendance-là à partir du 1er décembre, je crois qu'ils ont fait en plus des efforts à partir du mois de mars-avril, pendant la première période de confinement, pour réfléchir le fonctionnement de leur magasin. Voyez dans quelle disposition on est ici dans votre studio. Ils ont fait les mêmes choses dans les commerces et donc il faut donner droit à leurs efforts dès lors que la tendance s'avérerait plus positive dans les semaines qui viennent.
Et à l'inverse, alors c'est vrai que les établissements scolaires restent ouverts et qu'on n'a pas diminué, forcé les établissements à diviser par deux les effectifs avec un agenda, un planning adapté pour que ce soit à 50%
chose,
dans les collèges lycées.
Je crois qu'il y a un consensus assez général. Je rappelle que ça n'était pas le cas au printemps et même au déconfinement. Pour dire que quand même le mieux c'est de garder les établissements scolaires ouverts pour des tas de raisons d'égalité des chances en particulier parce que pour un jeune qui n'a pas un environnement personnel favorable, c'est quand même mieux qu'il puisse être dans un établissement que de rentrer dans un processus de déscolarisation dont on sait qu'il est très difficilement rattrapable. Donc je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Deux, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a précisé un certain nombre de mesures qui visent à travailler plutôt en demi-groupe. Je peux en témoigner même personnellement sur dans les lycées, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'il y a des protocoles qui sont suivis, mais dans la plupart des pays du monde, d'ailleurs, on voit bien que l'OMS, d'ailleurs, le recommande. Les établissements scolaires sont les derniers à fermer si jamais il y a des crises épidémiques, parce que quand même, c'est une question pour l'avenir des jeunes. Et donc, il faut maintenir autant que possible.
Sauf que c'est les jeunes qui propagent en fait aussi partie du virus, quoi, et dans les familles.
Manifestement, les mesures ne sont pas inefficaces. En tout cas, le dispositif tel qu'il est posé, puisque la courbe de l'épidémie semble relativement ralentie à ce stade. Donc manifestement...
C'est vrai qu'il y avait aussi 15 jours de vacances avant. Hein.
Oui, il y avait eu 15 jours de vacances, mais manifestement, la courbe épidémique se stabilise, y compris avec des établissements scolaires ouverts. On ne peut pas complètement mettre sous cloche le pays. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'activités. Pour le coup, l'enseignement, c'est une activité, pour moi, et nous considérons comme une activité essentielle.
Oui, Marc Fesneau, les décisions sont prises en Conseil de défense. Vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Est-ce que vous comprenez la frustration de certains, notamment les députés sénateurs?
Mais écoutez, moi,
ils disent qu'il y a un manque de transparence.
Ça vaudrait le coup, ce que je vais faire d'ailleurs, de faire la liste des débats qu'il y a eu sur, au mois de mars, l'entrée en état d'urgence, la prorogation de l'état d'urgence, le processus de déconfinement, le débat au Parlement qu'il y a eu sur le moment du déconfinement, oui. Les débats qu'il y a eu au Parlement au moment, le Premier ministre a annoncé le confinement, il y a plus de 3 ou 4 fois l'état d'urgence a été débattu, je ne parle pas des dispositifs économiques et financiers. Je comprends éventuellement la frustration du Parlement d'une forme d'accélération du processus qui fait qu'en permanence ils sont saisis de ces questions. Je n'ai pas le sentiment que le Parlement soit mis à l'écart de ces questions. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord en particulier avec les oppositions, mais il me semble que le Parlement
Parce que
respecté...
les oppositions, vous avez vu, les insoumis disent et accusent Emmanuel Macron de traiter l'épidémie via ce Conseil pour se protéger juridiquement.
Mais ça n'a aucun sens. On peut nous dire tout ce qu'on veut, mais ces espèces de thèses de complotistes, le Conseil de défense, il était en place depuis des années, il a été en place au moment de la première vague épidémique. Est-ce que pour autant les procédures judiciaires ont été arrêtées? Est-ce que pour autant les ministres ne sont pas appelés devant des commissions d'enquête à répondre des décisions qui ont été prises? Ça n'a aucun sens de dire ça. L'important, ce sont les décisions. Ouais. Le Conseil de défense, la seule différence qu'il a par rapport à d'autres structures, c'est qu'on est tenu au secret. Voilà. Oui. Mais ce secret-là n'empêche pas que ceux qui voudraient se saisir la justice puissent le faire. Donc, cette espèce de thèse complotiste qui est véhiculée par la France insoumise me paraît un mauvais procès.
Oui.
Et en plus, les faits démontrent que c'est factuellement faux.
Oui. Bon, Marc Fesneau, Jean-Louis Debré rend sa copie aujourd'hui sur un éventuel report des élections régionales. Vous y êtes favorable à ce report éventuellement
en
ou
pas ? En tout cas, la question est posée. Jean-Louis Debré rendra effectivement ses conclusions. Je sens une convergence vers l'idée que mars ne serait peut-être pas raisonnable. J'entends en tout cas un certain nombre de leaders de l'opposition qui disent que juin paraît un horizon raisonnable. On verra ce que propose Jean-Louis Debré. Il me semble que ça pose une question de capacité à faire campagne.
Oui.
Ça pose une question d'organisation le jour du scrutin.
Oui.
Et de mobilisation aussi, parce que vous voyez bien, on a bien vu l'épisode au mois de mars l'an dernier sur les municipales qui avait un effet de mobilisation, de démobilisation plutôt en l'occurrence. Il faut attendre ce que dit Jean-Louis Debré, mais si on pouvait trouver, à défaut d'un consensus, une voie de convergence pour dire c'est plus raisonnable que le débat démocratique puisse se passer dans les meilleures conditions en juin, il me semble que ça pourrait être un horizon qui
alors certains, est-ce qu'il pourrait y avoir la possibilité d'expérimenter le vote par correspondance à cette occasion?
Manifestement, c'est un débat qui est sur la table, qui est posé par mes amis du Modem,
ouais,
pas que.
Ouais.
Le Sénat, d'ailleurs, dans un premier texte qui parlait d'affaires électorales, avait posé la question du vote par correspondance. Je pense qu'il faut se mettre autour de la table, regarder les contraintes que ça pose, regarder les risques que ça porte.
Vous y êtes favorable, justement? Vous allez un petit peu encourager?
Moi, j'ai besoin d'éclairer ma propre opinion, parce que je n'ai pas de déclaration à l'emporte-pièce. J'ai besoin d'éclairer ma propre opinion pour savoir si c'est faisable, dans quel délai c'est faisable, et si ça peut être intéressant en
termes de mobilisation. Parce que là, on a un peu de temps, on peut organiser les choses.
Mais c'est ça qu'il faut regarder. Moi, en tout cas, c'est une voie qu'il faut explorer.
Bon, est-ce que vous serez candidat, vous, justement, pour la région Centre-Val-de-Loire?
Pour l'instant, je suis totalement mobilisé dans ma fonction de ministre, y compris d'ailleurs dans
ça veut dire que j'y réfléchis quand même, quoi.
Mais j'ai pas dit que je n'y réfléchissais pas.
Ouais.
Mais ne me demandez pas ce matin de dire quelle sera ma décision, parce que je pense que le moment n'est pas venu de poser ce type de décision et de Mon seul souci, c'est d'essayer, dans mes fonctions ministérielles au niveau national et aussi au niveau régional, de faire en sorte que nous puissions accompagner la crise.
Oui.
Les difficultés qu'on rencontre, vous en avez parlé, les chefs d'entreprise et les différents citoyens en termes de demandes d'emploi, de difficultés pour un certain nombre d'entreprises. Et c'est plutôt ça qui mobilise mon attention. Le temps viendra de la décision. Évidemment, les élections régionales sont une étape importante.
Oui, Marc Fesneau, nous sommes le 13 novembre. Il y a 5 ans se produisaient les attentats terribles au Stade de France, au Bataclan, évidemment. De tels attentats, des attentats de ce type pourraient de nouveau se reproduire. Il y a encore ce matin des notes, en fait, des renseignements disant que l'alerte est au maximum.
Il faut rester vigilant parce que c'est un combat de très long terme. Je voudrais avoir une pensée pour les victimes des attentats du Bataclan et puis ceux qui ont survécu et qui restent des victimes, au fond, et qui restent marqués à vie.
Ouais, ouais.
Ceux qui ont été victimes et ceux qui sont intervenus sur les lieux. Et en pensant à eux, penser à la nécessité que nous avons de protéger au maximum les Français. Il y a des moyens qui ont été rajoutés en termes de sécurité, en termes de renseignement, parce que je pense que la question du renseignement est essentielle. Et donc, l'énergie de l'exécutif et l'énergie de tout le monde doit être mobilisée. Puis la vigilance de tout le monde, au fond, elle doit être mobilisée pour faire en sorte qu'on puisse mettre hors d'état de nuire, avant qu'il n'y procède à des actes de telle nature, ceux qui ont des idées de
Mais alors, vous avez vu, il y a cette inquiétude autour de radicalisés qui vont sortir de prison, là. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à une législation d'exception, en quelque sorte, comme certains le réclament?
Il y avait un texte qui avait été proposé. Il se trouve que le texte a été censuré par le Conseil constitutionnel. Lequel Conseil constitutionnel, si j'ai bien lu la documentation, dit qu'il y a peut-être une autre voie? En tout cas, c'est une question qu'il faut se poser, parce qu'effectivement...
Mais c'est urgent, là, c'est quelques semaines.
On procédera et on réfléchira aux mesures et voies et moyens pour essayer d'éviter que ceux qui sont radicalisés et qui sont restés radicalisés, parce qu'un certain nombre d'entre eux, parfois, dans le passage en prison... je ne sais pas si le terme repenti est bon, mais reviennent sur ce qui les a, qui a pu mouvoir leur...
Non, c'est une urgence en tout cas.
Hein. Mais c'est un sujet évidemment urgent, c'est un sujet de préoccupation, et puis c'est un sujet de surveillance en tout état de cause de toute façon.
Oui. Marc Fesneau, question avec Cécile Ménibus. Cécile.
Oui, le documentaire Hold Up, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez vu ? Non, c'est un documentaire qui est sorti mercredi, qui présente la pandémie du Covid comme un complot mondial. Certains le conspuent, d'autres le portent au nu. Est-ce que c'est, selon vous, on reste dans le cadre de la liberté d'expression ?
On reste dans le cadre de la liberté d'expression, et la liberté d'expression... me permet de dire que c'est un tissu, je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu un peu un certain nombre d'accusations qui sont proférées. Mais la liberté d'expression me permet de dire que c'est un tissu de complotisme et de mensonge. Voilà.
Donc ça veut dire quoi ? Qu'on est plus proche de la diffamation ?
Je ne sais pas si c'est de la diffamation, parce que c'est une espèce de diffamation non nommée, si je peux dire. C'est un système, des gens qui se sont réunis on ne sait où pour décider qu'on allait faire un virus avec une volonté que les élites... tout ça me paraît hors de sens. Malheureusement, ça peut recevoir un écho dans la population. Je pense que quand on est en régime démocratique, il faut combattre un par un les arguments. On ne convoquera pas tout le monde, mais je trouve que le travail d'ailleurs des médias est assez remarquable pour essayer point par point de démonter et de démontrer que ce sont des thèses complotistes et que ça ne tient pas la rampe. 4 secondes.
Ouais, et l'opposition, parfois, justement, l'exploite un petit peu trop.
Je trouve que tous ceux qui se livrent à ces théories complotistes font œuvre nuisible à la démocratie. La liberté d'expression, ça doit aussi s'appuyer sur des faits. Mmh. Et y compris dans votre travail à vous, je trouve qu'on ne puisse pas appuyer les choses sur des faits, simplement des déclarations de gens qui disent « j'ai vu, je crois que ». C'est les mêmes qui nous expliquaient qu'on n'avait pas été sur la Lune et que la Terre était plate. Donc on peut tirer toutes les mêmes qui nous expliquaient que les attentats du World Trade Center étaient un complot fait par les Américains et d'autres puissances. Donc je trouve qu'à chaque fois, il faut se battre pied à pied, y compris par les réseaux sociaux. Y compris avec ceux qui contrôlent les informations pour faire en sorte qu'on ne laisse pas prospérer n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi absolu.
Merci Marc Fesneau, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, était l'invité ce matin de Sud Radio.
Et dans un instant, le journal de 8h. À tout de suite.